Décryptage. Marion Kazanov.
Une porte arrachée en plein vol, un pneu perdu au décollage, des fissures observées, des odeurs suspectes. Ces dernières années, les exemples ne manquent pas pour pointer les failles dans la construction des avions de Boeing. Avec également et surtout ces deux crashs d'avions en 2018 et en 2019 qui ont fait 346 morts. L'avionneur américain est sous le feu des critiques. Il est même visé par plusieurs enquêtes de la FAA, l'autorité de régulation de l'aviation aux États-Unis. Et comme si ça ne suffisait pas, sa course à l'espace aussi est une nouvelle fois compromise puisque le premier vol habité de son vaisseau Starliner a dû être reporté en début de semaine. Alors que se passe-t-il chez Boeing exactement? Comment expliquer cette série noire et quelles conséquences a-t-elle sur l'entreprise et sur l'aviation mondiale? On répond à ces questions ce soir dans Décryptage. Avec deux invités au téléphone pour répondre à mes questions. Bonsoir Gérard Felzer.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
Et consultant aéronautique et transport, président d'Aviation Sans Frontières. Bonsoir également à vous, Michel Polaco.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, spécialiste aviation et espace, chroniqueur sur aeromorning.com. Bienvenue à tous les deux. Je voudrais d'abord vous faire écouter cet extrait de chronique passée sur France Inter. Emmanuel Duteil raconte une anecdote confiée par un grand patron de l'aérien.
Il me racontait récemment qu'un ingénieur de Boeing devait se déplacer en avion. Alors vous allez me dire, jusque-là, c'est assez normal quand on bosse chez Boeing. Cet ingénieur s'était assuré qu'il n'allait pas voler sur un 737 Max, les fameux Boeing qui posent problème. Bon, là, c'est déjà un poil plus bizarre. Une fois arrivé à l'aéroport, il se rend compte que malheureusement, c'est bien un 737 Max qu'il va devoir prendre. Vous savez quoi? Il n'est jamais monté dans l'avion.
Et dans les studios, on l'entend, ça laisse pantois cet ingénieur qui refuse de monter dans un 737. Alors je vais mettre les pieds dans le plat directement. Gérard Felzer, monter dans un Boeing aujourd'hui, est-ce que c'est risqué?
Non, on ne peut pas dire ça parce qu'il y a l'effet nombre aussi. Il y a énormément de Boeing qui volent dans le ciel, du plus ancien au plus récent. Et forcément, statistiquement, lorsqu'il y a un incident, ça retombe sur Boeing. De là à être méfiant au point de ne pas monter dans un avion, aucune compagnie aérienne exploitante pourrait se permettre le moindre accident. Donc s'ils l'ont remis en route, c'est qu'ils avaient quand même les garanties.
Et en tout cas, il y a une perte de confiance sur certains sites de réservation. Il y a des filtres pour éliminer d'emblée l'appareil sur lequel on effectue un vol. Le site Kayak, par exemple, voit l'utilisation du filtre concernant le Boeing 737 Max augmenter. Il a été multiplié par 15 en janvier après l'incident de la porte envolée chez Alaska Airlines. Donc c'est signe quand même qu'il y a une inquiétude chez les passagers, Gérard Felzer.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a deux phénomènes aussi. Il y a l'effet nombre dont je parlais tout à l'heure, il y a l'effet politique et surtout la concurrence qui est extrêmement sévère entre les constructeurs. Évidemment, il y a Airbus, il y a des nouveaux arrivants, que ce soit en Chine, bientôt en Amérique du Sud avec Embraer, mais il y a une concurrence exacerbée. Il faut gagner du terrain, il faut gagner du temps, il faut solliciter les équipementiers pour alimenter la chaîne. Il y a de grosses difficultés en ce moment d'approvisionnement parce qu'il y a un marché qui repart. Et donc, c'est la course contre la montre. Et on voit que la culture, c'est une culture comme tous les phénomènes de société qui est le profit, qui est la finance. Et c'est ça qui handicape quand on veut aller trop vite.
On va peut-être parler de ce changement de culture chez Boeing. J'ai évoqué donc le 737 Max utilisé pour les moyens courriers. En janvier, panique à bord chez Alaska Airlines. Une porte se décolle en plein vol. Il manquait 4 boulons. On se souvient aussi donc de ces crashs mortels que j'ai évoqués en 2018, en 2019. Dans le Financial Times, le patron de Dubai Emirates a dénoncé le déclin progressif des normes chez Boeing. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Michel Polaco? Est-ce que Boeing est moins prudent qu'avant?
Alors écoutez, je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. D'une part, il y a les problèmes que rencontre la compagnie Boeing, qui effectivement depuis 2005 a renoncé à lancer des avions nouveaux, et notamment sur le secteur des monocouloirs, des moyens longs, des moyens courts, moyens courriers. Ce sont les problèmes rencontrés avec le Boeing 737 Max. Et effectivement, cet avion est un avion qui a, je dirais, des défauts de jeunesse, des tares, parce que c'est un avion qui a 60 ans, qui a été modernisé 4 fois, et qui, maintenant, est un avion assez hétéroclite. Et donc, il y a eu deux accidents, il y a eu des incidents dont on a parlé, et c'est vrai que là, c'est lié à la stratégie, à la politique de Boeing, qui a renoncé à faire un certain nombre d'investissements. Alors, il y a un deuxième problème chez Boeing, qui est qu'à partir des années 2000-2005, les dirigeants de la compagnie n'étaient plus des gens qui investissaient dans l'avenir de l'entreprise, mais qui voulaient lui faire cracher des dividendes. Ils s'étaient d'ailleurs installés à Chicago pour être plus près des places boursières, et ils avaient quitté Seattle, et puis ils ont sous-traité énormément de travaux à des entreprises extérieures. La surveillance a été elle-même réduite en termes de contrôle de qualité, et donc il y a eu tout ça, il y a eu des défauts sur la fabrication de Boeing 787, de Boeing 777 et évidemment de Boeing 737 MAX. Mais globalement, seul le 737 MAX est un avion qui pose problème. Sur les autres avions, il n'y a eu aucun problème grave. Le 787 est un avion qui n'a connu aucun accident, il y en a 1100 qui volent. Le 777 est un avion qui n'a connu aucun problème grave dont il soit responsable, et il y en a plus de 1500 qui volent. Donc on peut dire que chez Boeing, il y a de très bons avions, même si l'entreprise a commis de graves fautes. Alors, en revanche, il y a aussi les incidents qui sont liés aux exploitants, aux compagnies aériennes qui exploitent les avions. Et quand on perd une roue, ce n'est pas la faute de Boeing. Quand un pilote, par exemple, commet une erreur en termes d'utilisation de ses automatismes et que des passagers qui ne sont pas attachés se blessent dans l'avion, ça n'est pas la faute de Boeing.
Je voudrais quand même vous faire écouter ce témoignage d'un lanceur d'alerte qui s'est exprimé le mois dernier sur de graves problèmes de sécurité et qui concerne là notamment le 787.
J'ai de sérieuses inquiétudes concernant la sécurité des Boeing 787 et 777. Je suis prêt à prendre des risques pour en parler. J'ai analysé de nombreuses données pour conclure que Boeing prend des raccourcis de fabrication sur les 787 qui pourraient réduire drastiquement la sécurité de l'avion. En fait, ils fabriquent des avions défectueux.
Et donc là, il pointe quand même des problèmes avec ce modèle-là, le 787, Michel Polaco. On soupçonne notamment un manque d'inspection, surtout des falsifications des employés de Boeing. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de contrôle extérieur. Aux États-Unis, les avionneurs doivent se contrôler eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de législation sur ce côté-là, aux États-Unis ?
Alors, la législation est bonne, son interprétation a été mauvaise. Et il est vrai qu'il existe une administration fédérale de l'aviation, la FAA, qui est censée contrôler, comme en Europe, l'Agence européenne de sécurité aérienne, ainsi que la Direction générale de l'aviation civile en France, qui est censée contrôler le travail des constructeurs, le travail des exploitants, la formation des équipages, etc., etc. Et c'est vrai que la FAA, mais ça concerne essentiellement le Boeing 737 MAX, n'a pas fait son travail de contrôle, et les accidents qui se sont produits, elle a bien senti le vent du boulet, et depuis elle s'est reprise et elle a recommencé à effectuer des contrôles pointus en détachant des personnels chez Boeing, ce que pendant un temps elle ne faisait quasiment plus, se contentant de recevoir les expertises fournies par le constructeur. Donc il y a effectivement eu un problème à ce niveau-là. Faut faire attention d'ailleurs, parce qu'en Europe, on n'était pas loin d'aller sur cette piste-là, sur ce chemin-là. Les administrations dépendent des États, les États veulent faire des économies, donc on demande aux administrations de rester dans leur bureau et puis de récupérer des documents, des dossiers, et puis à partir de ça, de se faire des opinions. Alors ça ne marche pas pour tout, bien sûr, il y a des essais en vol, il y a des essais par des organismes comme le centre d'essais en vol en France, il y a l'équivalent aux États-Unis et dans d'autres pays. Évidemment, ça ne marche pas pour tout. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a eu un relâchement dans un système qui est extrêmement sûr et extrêmement rigoureux depuis une quinzaine d'années, tout particulièrement aux États-Unis, et que maintenant, les choses sont reprises en main, y compris chez Boeing d'ailleurs. Alors, le board de Boeing a changé, et l'équipe qui est en place elle-même d'ailleurs, qui sent qu'il y en a pour trop longtemps à remonter la pente, a décidé de quitter la direction de Boeing, et la crise chez Boeing maintenant, c'est de se trouver une nouvelle direction et pour alors, une nouvelle stratégie.
Il y a aussi un autre problème chez Boeing, Gérard Felser, ce sont les retards de livraison. Seuls 83 avions livrés au premier trimestre contre 130 un an plus tôt sur la même période. Qu'est-ce qui explique ces retards ?
Eh ben, ce qui explique ces retards, c'est que on a voulu sortir un avion, là je parle du 737 et je crois que Michel Polaco a raison, il faut différencier le Boeing 737 des autres avions qui sont le 787 et le 777, parce que On a voulu concurrencer Airbus. Alors, pour la petite histoire, c'est quoi ? C'est que lorsque Airbus a lancé l'A320neo et toute la série Neo, les Américains, qui avaient une part de marché extrêmement importante, hein, la première place dans le monde, a voulu rattraper, en n'y croyant pas au départ, en disant aux compagnies aériennes, attendez, vous allez voir, nous, on va sortir l'avion du siècle, etc., etc. Ce qui s'est passé, quand Airbus a atteint les 5000 avions vendus de nouvelle génération, il a fallu rattraper le retard chez Boeing. Et là, il s'est posé un problème tout bête, c'est que les nouveaux réacteurs, un peu plus gros que les anciens, ils n'avaient pas la marche suffisante par rapport au sol. Il a fallu les avancer, donc déplacer le centre de gravité, pardon si je suis trop technique, et puis on a remplacé la structure, ou on l'a améliorée par des moyens informatiques. Et il arrive qu'il y ait des bugs en informatique, et c'est ce qui a provoqué les deux accidents dramatiques de Lion Air et d'Ethiopian. Et là, le problème, c'est qu'on a décelé, à cause de ces accidents, des anomalies, des conflits d'intérêts entre ce que vient de dire Michel Polaco, entre l'administration et le constructeur. Et il a fallu faire le ménage. Il a fallu beaucoup de courage aussi, hein, parce que pour maintenir à flot une réputation, il a fallu mettre les bouchées doubles en réorganisation d'une part et en communication d'autre part.
Et alors, est-ce que on parlait de cette équipe de Boeing, le PDG de Boeing va partir à la fin de l'année. Il y a des critiques, certaines critiques pointent le fait qu'il n'y a pas assez aussi d'ingénieurs au sein du conseil d'administration. En 1997, ils étaient majoritaires. Aujourd'hui, ils sont plus que 23% en 2020. Gérard Felzer, ça montre donc bien le changement de culture au sein de l'entreprise. On pense plus dividendes. Il y a un changement de culture, on peut le dire aujourd'hui, chez Boeing.
Oui, en effet, Boeing était un formidable creuset d'ingénieurs qui ont inventé des avions formidables. Moi-même, j'étais pilote sur 747, c'était complètement nouveau, c'était une rupture technologique. Les gros porteurs qui apparaissaient sur le marché, s'est imposé rapidement. Et puis, effectivement, on a demandé à ces ingénieurs qui ont perdu en quelque sorte le pouvoir, et vous avez raison, par rapport aux financiers. On leur a mis une pression terrible en disant « Allez-y, il faut rattraper le retard, il faut être les premiers, garder la prééminence sur le marché mondial des avions. » Il arrive un moment où on va trop vite, on finit par trébucher. C'est ce qui est arrivé au 737 en tous les cas. Quant aux nouveaux avions, le Boeing 787, il y a des défauts de jeunesse, et ça, c'est toutes les compagnies aériennes ou tous les constructeurs ont eu affaire à des difficultés de démarrage, y compris le Boeing 747 qui était réputé pour être extrêmement sérieux dans sa conception et son exploitation. Aujourd'hui, on a des défauts de jeunesse. Moi-même, j'étais dans les premiers qualifiés sur Airbus 340 et 330. On a eu des problèmes mineurs, certes, mais quand même des problèmes importants à résoudre. Juste un exemple, j'avais une délégation officielle pour aller sur Washington. Toutes les toilettes sont tombées en panne. On est obligé de faire demi-tour. Ce sont des choses qui arrivent dans ces nouveaux appareils. C'est quand même une problématique qui concerne énormément d'intervenants. Et on demande des compagnies elles-mêmes ont la pression des financiers, mais la compagnie elle-même a la pression vis-à-vis des équipementiers, c'est-à-dire ceux qui fournissent les moteurs, les trains d'atterrissage, etc., etc. Et là, il s'est posé des problèmes dernièrement qu'on a vus. Il manquait des boulons sur les issues de secours, etc. Donc, il y a des pressions, en effet, financières qui ont pris le pouvoir dans une compagnie formidable qui dispose d'ingénieurs, mais pas suffisamment, apparemment.
Alors, les résultats financiers de Boeing ne sont pas pour autant catastrophique malgré ces failles. Il y a eu des annulations de commandes, notamment après lorsqu'il y a des accidents avec ses avions, mais Boeing a encore du mal à respecter les cadences de construction. Ses pertes de chiffre d'affaires sont en fait moins importantes que prévues. Michel Polaco, comment expliquer qu'en fait Boeing s'en sorte si bien ?
Alors, d'une part, les livraisons réduites chez Boeing, ça tient aussi au fait que l'administration fédérale de l'aviation américaine a interdit à Boeing de produire plus de 40 Boeing 737 par mois. Or, sa cible, c'était 70 ou 75. Et d'ailleurs, la cible d'Airbus sur le même créneau d'avions, c'est 75 avions par mois en 2026. Donc, évidemment, Boeing est obligé de respecter cette obligation de la FAA et de réduire ses cadences de production, d'autant plus qu'elle est obligée de les réduire aussi sur les Boeing 787 et les Boeing 777 parce qu'ils ont des problèmes de fabrication avec leurs sous-traitants. Alors, la question que vous me posiez, c'était, répétez-moi, parce que
comment,
je l'ai...
Comment expliquer que Boeing s'en sorte si bien malgré toutes ces failles ?
Alors, Boeing s'en sort bien parce que Boeing est une entreprise immense qui fabrique des avions, des hélicoptères, des avions militaires de combat, qui fabrique des vaisseaux spatiaux, comme vous l'avez vu, qui fabrique des quantités de choses. Et s'il est vrai que Boeing Aircraft Company, la compagnie qui fabrique les avions civils, la filiale qui fabrique les avions civils, rencontre de grosses difficultés d'organisation et financières, qui sont en cours de règlement, d'ailleurs ils ont fait des efforts énormes, il n'en reste pas moins que le groupe lui-même reste un groupe absolument gigantesque, qui a des tas de ressources. Quant au Starliner, son vaisseau spatial qui ne décolle pas, il ne faut pas s'inquiéter trop, nous avons tous eu des problèmes avec des éléments nouveaux, et il est beaucoup mieux de retarder un décollage que d'avoir un décollage qui se passe mal.
Mais est-ce que c'est le moment pour Boeing de se diversifier maintenant, si l'entreprise a déjà tant de problèmes ailleurs dans l'aviation civile ?
Boeing ne se diversifie pas. Boeing est diversifié depuis 50 ans, 60 ans. Boeing est une entreprise qui fabrique des avions. Regardez le B-52 qui arrive à 70 ans de vie, le Boeing B-52. Et qui a été construit à 900 exemplaires, et il y en a encore une centaine qui sont exploités par l'armée de l'air américaine.
Mais Boeing est en retard sur Starliner, 4 ans de retard sur SpaceX.
Oui, alors Boeing est en retard par rapport à SpaceX. Maintenant, il faut reconnaître que Boeing ne travaille pas exactement de la même manière que Elon Musk avec son entreprise, n'est-ce pas ? Boeing rencontre des difficultés parce qu'ils ont perdu des savoir-faire, qu'ils avaient un certain nombre de savoir-faire il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, que les Américains ont abandonné la course à l'espace après les vaisseaux Apollo, et que la navette spatiale, ça s'est mal passé, comme vous le savez, elle a été arrêtée en 2011. Donc voilà, ils ont des soucis à ce niveau-là, mais ce ne sont pas des soucis qu'on peut appeler graves, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les précautions sont prises pour qu'aucun vaisseau qui part ne soit en danger. Elon Musk a, c'est vrai, un système qui est extrêmement rodé, mais pensez qu'il l'a lancé l'année dernière sans fusée, Elon Musk, en 2023, enfin 96 exactement. Alors évidemment, ça permet d'avoir un retour d'expérience considérable que Boeing n'a pas actuellement.
Gérard Felder, ces problèmes de Boeing, qui vous l'avez rappelé tous les deux, ne sont pas si graves, ces retards de commandes, est-ce que ça peut quand même profiter à d'autres entreprises? Je pense notamment au leader mondial, à Airbus. Est-ce que Airbus en profite déjà d'ailleurs?
Alors, on peut dire ça, mais en fait, personne n'est gagnant dans cette affaire. Quand une industrie comme celle de Boeing a des difficultés, ce n'est pas un bénéfice direct pour Airbus, parce qu'il y a le monde de l'aviation qui est perturbé, il y a une désaffection du public pour certaines destinations et certains appareils, donc ce n'est pas évident. Il faut rajouter par rapport à ce qui a été dit aussi, qu'il y a une pression. Pourquoi Boeing s'en sort financièrement finalement ? C'est qu'il y a une pression internationale diplomatique, c'est-à-dire qu'ils ont des pays qui sont fidèles ils ont la crainte de voir ces commandes historiques repasser sous le joug des financiers et s'adresser à des compagnies comme Airbus. Donc il y a la pression politique et financière, et puis aussi Boeing et Airbus se sont attaqués mutuellement pour des subventions et donc concurrence déloyale. Il faut dire que Boeing a un marché défense, et là-dessus il joue le vase communicant, c'est-à-dire quand on fait la perte d'un côté, on fait des bénéfices de l'autre.
Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Gérard Felder, consultant aéronautique transport, président d'Aviation Sans Frontières, Michel Polaco, journaliste spécialiste aviation et espace, chroniqueur sur aeromorning.com. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir sur RFI, d'avoir parlé de l'avionneur Boeing. Merci également à Valentin Vaner qui était à la réalisation ce soir, et à Jugurtha Hammer qui m'a aidé à préparer cette émission. Bientôt 20h30 à Paris. Dans quelques secondes, place à l'actualité africaine.
Appelez-nous.